Bonjour à tous, je suis Pierre-Cyril Lecoeur, je suis le président de l'École des hautes études en sciences sociales et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre pour le lancement de Politica. Je vais juste vous dire quelques instants l'importance du LABEX TEPSIS pour l'EHESS. LABEX est fait partie de ces opérations qui ont été initiées par le gouvernement, ou plus exactement par le commissariat aux grands investissements, et qui au départ n'a pas suscité forcément une adhésion complète, même quelques inquiétudes, et qui finalement, quand on s'en empare, donne des résultats inespérés. Le LABEX a été monté avec plusieurs partenaires, le CNJ, l'ENA et, last but not least, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et a cherché à grouper les forces de ces établissements autour d'un thème très large qui était le politique, les transformations de l'État, politisation des sociétés, institutions du social. Bon, vous voyez qu'au total, on peut mettre un grand nombre de questions autour de ça, mais ce qui a compté, c'était moins les thèmes que les pratiques qui ont été permises par ce LABEX, qui, à certains égards, a permis à un grand nombre de chercheurs des institutions réunies de faire ce qu'ils rêvaient de faire. En matière de recherche, en partie, encore qu'en matière de recherche, ils aient toujours réussi à trouver comment financer à peu près leurs opérations, le LABEX ayant facilité les choses plus que radicalement bouleversé l'accès au financement de la recherche, mais aussi en termes de formation, en permettant à des doctorants notamment de se lancer réellement dans la professionnalisation, dans le métier d'enseignant-chercheur, voire dans d'autres débouchés. Et ceci, en particulier par le fait que les doctorants étaient intégrés très fortement dans le fonctionnement du LABEX. Je crois que j'ai malheureusement pas entendu les présentations qui ont été faites par les doctorants tout à l'heure, mais dont tout le monde m'a dit l'extrême qualité et le fait que c'était une grande qualité qui était due évidemment au travail de ces doctorants et à leur qualité scientifique, mais aussi à ce qu'ils avaient appris en termes de savoir-faire, de savoir s'exprimer, de savoir présenter, de savoir être convaincant, qui est une des choses qu'on réalise dans les ateliers de TEPSIS. Et puis, voilà, recherche, formation, le triptyque de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur à l'EHESS en particulier, se clôt avec l'édition. Et ici, il s'agit de quelque chose de renouvelé dans les formes, mais qui est bien dans l'esprit de l'édition, c'est-à-dire à la fois penser en s'exprimant, et donc penser autrement quand on s'exprime autrement, et s'exprimer avec de nouveaux supports, ce n'est pas s'exprimer de la même manière qu'auparavant. Et puis, c'est s'exprimer pour des publics variés, et donc pas seulement pour les chercheurs, on espère en tout cas, pour les chercheurs, pour les doctorants, pour les étudiants, mais aussi pour un public plus large qui a le droit dans les sociétés démocratiques et qui a besoin de pouvoir s'approprier la chose publique. Et on sait que derrière des unanimismes apparents, il peut y avoir des divergences significatives et que c'est seulement par l'appropriation concrète, détaillée de la chose publique que les démocraties peuvent vivre et que donc nous avons besoin de ce type de plateforme aujourd'hui encore. Voilà, donc moi j'entends parler de Politica depuis plusieurs années. Il fut même un temps où je me demandais si ça existerait, mais ça existe bien, en tout cas je crois qu'on va le voir. C'est parti comme une encyclopédie, ça arrive comme quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on va nous expliquer. On me l'a déjà expliqué, mais ce n'est pas moi qui l'exprimerai le mieux, donc je vais laisser faire ceux qui l'ont réalisé. Mais je pense que c'est un point important dans l'évolution du LABEX et que c'est une des choses dont il peut s'enorgueillir à l'heure où le commissaire général à l'investissement nous met devant un nouveau défi, transformer le LABEX en école universitaire de recherche et en faire quelque chose qui renforce encore la place des étudiants et des doctorants en son sein, tout en poursuivant les activités de recherche, d'édition, qui ont si bien réussi. Et donc, ce moment est particulièrement bien choisi pour lancer Politica, puisque nous sommes à la transition entre deux moments de la vie de ce LABEX, qui joue un rôle désormais central dans toute une partie des travaux qui sont menés à l'EHESS, et j'espère aussi chez les établissements partenaires, mais ils le diront mieux que moi. Merci à tous, et je passe la parole à ceux qui vont vraiment vous expliquer ce qui va se passer. Voilà.
Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Alors, parce que d'abord, le projet Politica, on le suit aussi depuis un petit moment. On est partenaire du projet au titre de l'école. Les étudiants se sont impliqués également. Je dois dire que c'est pour moi quelque chose de très important de faire travailler ensemble journalistes et chercheurs. On n'y croit pas toujours. Souvent, on s'entend très mal, on ne se comprend pas très bien. Donc, se dire qu'on peut être utile les uns aux autres, ça a été évidemment très important pour nous. Je dois vous dire que pour Politica, quand Richard Reichmann et Frédéric Matanti sont venus me chercher en me disant que ce projet était en gestation et absolument, me paraissait absolument énorme et immense et impossible d'imaginer qu'on puisse rendre le savoir des chercheurs accessible aussi simplement aux journalistes et au grand public. Alors je les mets dans le même sac, parce que souvent les journalistes ont la culture du grand public. C'est un peu le problème d'ailleurs. J'ai trouvé ça passionnant de pouvoir apporter notre maigre savoir-faire, qui est celui de la technique. Technique multimédia, technique de création de plateformes, de présentation de contenu, et de le mettre au service de votre travail à vous, parce que c'est d'abord ça ce qu'on a voulu faire. Je ne vais pas parler longtemps, parce que ce n'est pas du tout moi qui suis à la fois la mieux placée pour vous expliquer aujourd'hui Politica, ni qui suis au cœur de l'initiative. Je voudrais appeler Richard Reichmann, ou en tout cas lui donner la parole, qui est directeur du LABEX. Richard, je te laisse peut-être présenter l'origine de cette idée folle.
Je vais vous dire quelques mots de ce LABEX, mais avant tout, je voudrais remercier Pierre-Cyril Aucœur d'avoir réussi à trouver le temps pour introduire ce moment très important pour notre LABEX, et sa présence est tout à fait importante pour nous aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais qui, vous allez le voir aujourd'hui, se déploie complètement. Et pour saisir le déploiement, il faut que vous ayez une toute petite idée de ce qu'est ce LABEX. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, nous avons eu la chance de gagner une sorte de concours qui nous a donné quand même une somme rondelette pour faire de la recherche, mais pas simplement pour faire de la recherche, puisque l'enjeu d'un LABEX, c'est vraiment de construire des nouveaux dispositifs qui permettent de créer de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas simplement avoir la possibilité de mener un projet seul dans son coin et d'être richement doté pour le faire, mais c'est d'essayer de voir comment on peut travailler à plusieurs pour justement développer quelque chose qui n'aurait pas pu se développer autrement. Et ça, c'est quelque chose d'assez original, que les financements arrivent de la sorte et que les chercheurs soient en mesure de les affecter eux-mêmes à de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on a travaillé entre chercheurs, mais pas qu'entre chercheurs. Il s'agissait de réunir des équipes les unes avec les autres. Alors, 13 unités mixtes de recherche, ce qui n'est pas rien. Le centre de recherche de l'ENA, le centre de formation des journalistes, donc des gens qui viennent d'univers différents, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui vont essayer ensemble de créer non pas un projet commun, mais plein de projets communs différents, aussi bien dans le champ de la recherche, de la formation, que de ce qu'on appellerait la diffusion. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, parce que je ne sais pas où ranger cela, mais comme le disait Pierre-Cyril Aucœur, l'essentiel, c'est de nous montrer que la recherche, c'est utile dans la société très tôt, très rapidement, et qu'il faut trouver des dispositifs qui permettent très vite d'être en interaction avec la société civile pour faire en sorte que nos travaux servent à quelque chose, mais qu'aussi nous puissions être interrogés par la société civile pour que nos travaux répondent à des attentes qu'ils peuvent avoir. Voilà un peu comment nous avons construit ce projet-là. Politica, tu en diras nombreuses choses tout à l'heure, est un des éléments de ces dispositifs. Nous avons inventé plein d'autres dispositifs, aussi bien dans le champ de la recherche elle-même en finançant des petits programmes de recherche, puis des gros programmes de recherche, puis des programmes internationaux. Vous voyez, la carte là montre tous les lieux où des chercheurs de TEPSIS sont implantés et sont aujourd'hui en train d'essayer de produire des choses nouvelles, seules ou à plusieurs, sur les questions qui tournent autour du politique. Alors, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des politistes, et également des gens qui travaillent sur les aires culturelles, puisqu'il était évident pour nous que cette approche pluridisciplinaire ne devait pas être simplement disciplinaire, mais également locale, c'est-à-dire avec les aires culturelles, à peu près tout, puisque le Japon vient de nous rejoindre récemment, ce qui fait que je ne vous fais pas la liste, mais nous avons à peu près tout le reste du monde également qui est investi dans TEPSIS.
Il y a un aspect très important aussi dans le projet Politica, c'est l'aspect format. Alors le fond d'origine du projet, évidemment, est fondamental. Mais ce que peut-être Frédéric Matonti, qui est directrice adjointe du LABEX et qui a fait partie de ceux qui ont coordonné le projet depuis son origine, ce que peut-être Frédéric peut nous expliquer, c'est comment ce format est aussi au service d'une nouvelle, édition en fait, de la recherche, d'un nouveau mode de partage de cette recherche.
Alors c'est vrai que dès le début, nous nous sommes demandé ce qu'on pouvait faire à 250 par rapport à ce qu'on ne fait généralement qu'à 25 ou à 10 dans des petits projets. Et on s'est également posé une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des équipes qui, comme l'a dit tout à l'heure Richard, font de l'anthropologie, de la sociologie, de la science politique, de l'histoire, travaillent sur des aires extrêmement différentes. Et on s'est dit, une des choses extrêmement importantes, finalement, c'est de montrer leur travail. C'est donc de montrer leur travail, de faire connaître leur travail et de faire de ce travail une base extrêmement importante d'expertise. Alors, bien entendu, tous ces chercheurs que nous avons assemblés, ils ont des choses en commun, comme leurs partenaires étrangers, puisque dans Politica, vous allez voir, il y a aussi des partenaires étrangers, extérieurs aux UMR. Donc, toutes ces personnes ont donc quelque chose en commun, c'est-à-dire que, à la fois, ce sont tous des chercheurs préoccupés par l'empirie et en même temps qui ne lâchent jamais leurs ambitions théoriques. Et ça, c'est quelque chose que tous ont évidemment en commun. Donc, une fois qu'on a dit ça, notre idée, c'était donc de montrer ce savoir et ce savoir-faire et de le montrer à plusieurs publics. Au public, bien évidemment, des pairs, c'est-à-dire au public des chercheurs qui travaillent sur ces questions, qui sont des proches ou qui sont plus ou moins éloignés. C'était de le montrer aussi aux étudiants, bien sûr, et aux étudiants commençants, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un étudiant, un jeune qui est aujourd'hui en terminale, c'est le jour du bac aujourd'hui, qu'il puisse aller regarder ce site. Notre idée également, bien entendu, c'était de pouvoir le montrer aux journalistes qui souvent cherchent partout des personnes à interroger sur un certain nombre de questions. Et puis enfin, c'était de le montrer à ceux qu'on appelle, avec un mauvais terme, le grand public cultivé, mais c'était évidemment important. Notre idée aussi, c'est qu'on est parti d'un constat. Ce constat, vous le connaissez tous, c'est la crise de l'édition en sciences humaines et sociales. On sait bien que les ouvrages académiques longs, avec une teneur théorique extrêmement importante, se vendent peu. Se vendent même très peu, sauf miracle, il y a évidemment des miracles, mais en général, ils se vendent peu. Et c'est très différent de ce qui pouvait se passer il y a 40 ans. Donc on a tenu compte de cette crise de l'édition en sciences sociales, et puis si je le dis d'une manière plus positive, on a tenu compte aussi du fait que les gens aujourd'hui lisent, nous-mêmes, nous lisons tous autrement. Nous vagabondons, nous avons une lecture vagabonde, nous avons une lecture qui ne se fait pas forcément à la table, qui ne se fait pas forcément dans une bibliothèque, qui peut se faire en train, qui peut se faire sur une tablette, et puis nous prenons un article, nous le commençons, nous l'archivons, toutes ces choses-là nous l'avions en tête, bien entendu. Et puis évidemment, la chose que nous avons pris en compte, c'est le fait que le monde du savoir, il se présente aujourd'hui en grande partie à nous, sous la forme de ressources en ligne, mais bien évidemment avec une difficulté, c'est-à-dire comment se repérer. Je laisse de côté toutes les questions très, très cruciales sur les fake news ou ce genre de choses, mais de manière plus simple, comment se repérer, comment savoir par où commencer, comment savoir ce que vaut une référence. Donc notre idée aussi, c'était de fabriquer quelque chose qui puisse fonctionner comme une marque et comme une référence. Enfin, je dirais, quand on a pris compte, quand on a eu en tête toutes ces choses, on s'est dit qu'il fallait évidemment fabriquer un site multimédia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a dans ce site aussi bien des notices écrites, si j'ose dire, mais vous allez le voir qu'elles sont écrites d'une certaine manière, que des films. Et donc, même les écrits, en fait, jouent le jeu du multimédia, c'est-à-dire que tous ces écrits sont illustrés. On y trouve des cartographies, on y trouve des graphiques, on y trouve des extraits de films, on y trouve des photos. Sachant que tout ça, c'était à la fois tenir compte des nouvelles manières de lire, d'apprendre, mais aussi savoir que quand on montre des films, quand on montre des photos, c'est aussi faire sentir. C'est très important que le lecteur se rende compte, se représente. Et donc ce jeu du multimédia, il nous sert également à ça.
Alors, là, je crois que maintenant tout le monde a envie de voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir la première page, la home de Politica. Et je pense que le pari, je dois le dire, qui a été remporté en plus de 2 ans de travail, hein, le pari, pour moi, ça a été d'essayer de rendre la recherche sexy. Ça ne se dit pas, mais c'est ce que je pense quand même. Comment faire en sorte que les travaux, le travail des chercheurs soit donne à voir et que ce qui est à voir soit à la fois agréable et utile. Ce pari-là, à mon sens, est absolument gagné. Je vais laisser les deux chefs de projet, et en particulier Vanessa Jérôme, qui est post-doctorante TEPSIS, qui a coordonné aussi ce projet, vous décrire les différents espaces de ce site, et notamment la home. Vanessa.
Pardon. Donc voilà, là vous vous retrouvez sur la page d'accueil du site Politica, donc qu'on appelle la home. On va descendre tout doucement et prendre le temps de vous montrer un petit peu la manière dont elle est organisée. Donc vous avez une image animée toujours, puis ensuite le rubriquage de l'encyclopédie telle qu'elle a été conçue. Une première partie, donc on a les notices, donc qui comprennent tous les textes écrits mais illustrés avec des contenus multimédia dont Frédéric a déjà parlé. Puis une partie entretien avec 2 types d'entretiens filmés, donc des parcours qui sont centrés sur l'interaction entre les biographies, les parcours des chercheurs et leurs intérêts, leurs objets de recherche. Et puis des instantanés qui sont des vidéos un petit peu plus courtes et qui concernent soit un type de recherche très précis qu'un chercheur veut présenter, soit un petit point d'actualité. Vous avez ensuite la rubrique atelier, je vais revenir juste après sur la revue Passé Futur. La rubrique atelier accueille la partie la plus expérimentale de Politica, donc vous avez à la fois des workshops, mais vous avez également l'ensemble des travaux des doctorants que vous avez, pour certains d'entre vous, entendu tout à l'heure, qui sont présentés. On aura aussi des contenus éditoriaux, des ouvrages, etc. Donc voilà, cette partie est très, très ouverte. Et puis une dernière partie, qui est la revue Passé Futur, dont Sabina Loriga parlera tout à l'heure, qui est accueillie également sur le site. La grille de la home, on va descendre doucement, donc est organisée. Vous avez une première présentation qui donc propose les notices telles qu'elles ont été soit chargées, soit proposées de manière un petit peu plus éditoriale. On cliquera dedans, bien sûr, ensuite. Donc une première partie notices. Quand vous descendez dans la home, vous avez donc le premier numéro de Passé, la revue Passé Futur, donc Passé non maîtrisé. On aura évidemment plusieurs numéros, donc chacun s'affichera au fur et à mesure de sa création dans cette ligne. Puis ensuite, la grille présente les contenus des ateliers, dans lesquels nous rentrerons aussi tout à l'heure. Enfin, une partie sur les entretiens, donc à la fois les entretiens parcours et les entretiens instantanés. Peut-être que Roman peut juste cliquer sur « Voir les contenus suivants » pour... voilà, vous avez une grille, mais évidemment, plus il y aura de contenu et plus on pourra vous en proposer. Alors, ce n'est pas seulement des contenus qui sont proposés un peu au fil de l'eau. Il y a aussi des choix éditoriaux qui sont faits par l'équipe Politica et que vous retrouvez un petit peu plus bas dans la home. Voilà, dans un bandeau interactif, donc là on vous en propose trois pour la présentation d'aujourd'hui, donc repenser l'espace public, faire des sciences sociales, et puis un troisième sur la Turquie et l'Empire ottoman. Donc là vous avez un ensemble de contenus à la fois à voir ou à lire et qui sont choisis, donc ce sont des choix éditoriaux de l'équipe. Alors, il n'y a pas simplement, tout le monde l'a souligné jusqu'à maintenant, il n'y a pas simplement une manière de l'équipe de Politica de proposer aux internautes des lectures, des contenus, des choses à lire ou à voir. Il y a aussi une manière d'interagir avec les internautes et de permettre aux chercheurs non seulement de proposer leur contenu, mais aussi d'interagir avec les internautes à partir de l'espace personnel. On va vous le montrer, puisque vous pouvez, à partir du moment où le site sera en ligne, vous pourrez vous en créer un. Et puis on espère qu'il y en aura beaucoup, évidemment. Donc là, c'est simplement la page de présentation. C'est très simple. Vous rentrez votre adresse mail, vous rentrez un mot de passe, vous atterrissez sur cette page de l'espace personnel. Et là, vous avez votre page à vous, vos contenus, tous ceux que vous allez sélectionner, soit en cliquant sur « Ajouter à mes favoris », soit en naviguant à l'intérieur du site.
Peut-être juste un mot pour rappeler quelque chose, c'est que c'est exactement l'inverse d'une plateforme comme Facebook, Twitter, qui est un puissant fond, voilà. Tout est hiérarchisé. C'est aussi l'inverse du média que nous, on peut exécrer par définition, qui est celui qui parle sans savoir. Donc l'idée vraiment, ce sont les experts, les mieux placés, avec un vrai choix éditorial, piloté par un comité de rédaction. Donc ça, c'est important aussi, à titre du média Politica. Est-ce que Vanessa, tu voulais peut-être montrer la bibliothèque que tu l'as fait, les notifications ? On peut faire des notifications ?
Oui, alors juste une mention, on pourra, une fois que vous avez créé l'espace personnel, on pourra, dans quelques temps, on mettra en place le système qui vous permet de recevoir une information de notification sur votre adresse mail entrée et qui vous informera que nous avons mis en ligne de nouveaux contenus et que vous pouvez aller les consulter.
Tous les contenus sont traduits en anglais. En haut à droite, vous voyez le choix des langues. Donc c'est évidemment extrêmement important. Et on peut aussi les partager. Chaque contenu, chaque notice peut être partagée par mail sur un réseau social. Donc c'est aussi une autre façon de collaborer et de diffuser ce savoir. Voilà les onglets de partage. Peut-être une petite parenthèse, un tout petit mot sur le footer de Politica qu'on ne voit pas à l'écran, mais peut-être que si... Voilà, en descendant, vous allez l'apercevoir voilà. Ou pas ? Où est-il ?
Il est là.
Ah, voilà. Mais on ne voit pas Jaurès ?
Alors attention,
où est parti Jaurès ?
Il est là.
Notre ami. Pardon. Donc je voudrais que Frédéric vous explique pourquoi cette image a fait l'unanimité de l'équipe Politica autour du projet.
La première réponse, c'est parce que l'image est belle. Alors évidemment, la composition hein, capte totalement le spectateur. Vous ne pouvez pas le voir, mais quand on regarde la photo de près, vous l'avez d'ailleurs dans vos tote bags, vous apercevrez que la résolution est une résolution absolument extraordinaire pour une photo qui date du début du 19e siècle. Et donc j'insiste là-dessus parce que du 20e siècle, pardon. J'insiste là-dessus, bien sûr, parce que c'est aussi quelque chose qui est la marque de Politica, c'est-à-dire le choix esthétique. Vous avez commencé à le voir, on a travaillé sur l'esthétique du site, donc Jaurès s'imposait pour cette raison. L'autre raison, évidemment, un peu plus profonde, c'est que c'est une photo, bien sûr, qui parle de politique. Dans cette photo, il s'agit d'une manifestation contre le service militaire de 3 ans, quelques mois avant la guerre de 1914, et dans lequel on voit un leader qui parle, et puis ceux qui sont autour de lui sont ceux qui vont prendre la parole ensuite. Donc ça illustrait déjà 2 rapports aux politiques, le rapport un peu classique du dirigeant politique, et puis le rapport un peu moins classique, un peu moins conventionnel, comme on dit en sciences politiques, de la manifestation. Et donc c'était une manière de dire aussi tous les rapports aux politiques, bien entendu, nous intéressent. Et puis enfin, si je vais encore un cran plus loin, évidemment, Jaurès, ça n'est pas n'importe qui dans l'histoire, je dirais, intellectuelle et politique. C'est précisément un intellectuel très engagé au moment de l'affaire Dreyfus, agrégé de philosophie et qui, par ailleurs, est très lié... au groupe durkheimien, hein, donc de sociologie, d'ethnographie et d'anthropologie, fondé par Émile Durkheim. Et ce choix, c'était aussi rappeler que pour beaucoup d'entre nous qui travaillons sur les sciences sociales, eh bien, Émile Durkheim est un père fondateur. Donc voilà pourquoi je reste.
Bravo. Puisque tu as la parole, est-ce que on va se retrouver à nouveau sur les notices, et je vous propose peut-être d'explorer plus en détail quelques notices phares de Politica. Ce ne sont que quelques notices, beaucoup d'autres ont été téléchargées, mais c'est important qu'on vous montre à la fois la démarche et évidemment l'esthétique de ces notices.
Alors on peut dire peut-être quelque chose de ce qui a été les règles qu'on s'est données pour les notices. Tout d'abord, les auteurs, et c'est extrêmement important de le dire, ont une grande liberté. La seule contrainte, je dirais, c'est la contrainte du pas plus de 50 000 signes. Ce qui est déjà est très important et en particulier permet de c'est à peu près la taille d'un article classique et déjà assez long de revue. L'autre chose qu'il faut souligner, bien entendu, c'est que l'autre contrainte des auteurs, vis-à-vis desquels parfois ils ont du mal à se plier, c'est que nous souhaitons que ces notices soient illustrées et qu'elles le soient, je disais, pour permettre de faciliter la lecture, d'enrichir la lecture, et comme je le disais tout à l'heure, pour que le lecteur puisse se représenter, puisse imaginer. C'est souvent une des difficultés, y compris quand on est enseignant, d'arriver à faire imaginer aux étudiants ce dont on parle. Donc montrer, et montrer des choses très variées, c'est évidemment parvenir à guider le lecteur. Enfin, on a insisté sur la liberté des auteurs au sens où ils ont la liberté de leur contenu. Les auteurs sont des auteurs soit extrêmement renommés, soit particulièrement innovants, soit les deux. Et donc, du coup, notre idée, c'est qu'ils fassent des notices, qu'ils soient où on entende leur point de vue. Précisément, ce n'est pas une encyclopédie. Ils ne sont pas là pour faire un point sur un sujet donné. Ils sont là pour nous dire leur point de vue sur une question qu'ils sont en train de travailler ou qu'ils travaillent depuis longtemps. J'ajoute enfin qu'il y a un très gros travail éditorial sur ces notices, ce qui est pour le coup ça particulièrement un luxe, et notamment dès qu'on est sur des éditions qui sont des éditions en ligne. Alors peut-être si on parle plus des notices, vous avez vu passer un certain nombre de notices, vous avez vu passer, je crois, en premier la notice écrite par Bruno Carsanti sur les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est-à-dire un commentaire du texte de Durkheim. C'est, je crois, un très bon exemple, c'est-à-dire on a là un auteur qui travaille sur les sources de la sociologie et qui relie un des textes fondateurs de la sociologie, qui est le texte de Durkheim, qui en montre les implications anciennes, mais aussi les implications contemporaines. Et si vous avez fait attention un peu aux illustrations, vous avez vu sans doute qu'on y trouve aussi bien des cérémonies sociales, des cérémonies de société archaïque, que nos propres cérémonies de société dite moderne ou contemporaine, puisque une des images, là c'était un petit écho pour nous aussi, c'est précisément une des images et un des petits films qui se trouvent encapsulés dans la notice, c'est précisément l'enterrement de Jean Jaurès, le transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon. La deuxième notice que vous avez peut-être vu passer, c'est celle de Jean-Frédéric Chaube sur la formation des catégories raciales. C'est aussi une notice extrêmement importante parce que, est très représentative de ce qu'on avait en tête, parce qu'elle ouvre une discussion intellectuelle sur un sujet et sur un terme, le terme de race, qui est évidemment un sujet très controversé. On a là affaire à une catégorie idéologique, mais aussi à une catégorie critique. C'était donc important de pouvoir ouvrir ce genre de débat et de le faire ouvrir par un historien qui donc pouvait aussi replacer ce débat dans une perspective historique. Et puis, je trouve qu'avec cette image, par exemple celle-là, si Romane veut bien s'arrêter, on voit exactement ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, faire sentir. cet homme seul, noir, qui monte l'escalier, qui est l'entrée, qui lui est permise pour entrer au cinéma, il n'y a pas mieux pour faire comprendre ce que c'est que la ségrégation. Alors, il se trouve que, par ailleurs, elle est effectivement aussi esthétiquement très belle, mais voilà, vous avez là l'esprit de la notice et l'esprit des notices en général.
Merci. Alors, effectivement, dans l'idée de faire sentir, Politica a aussi développé le format vidéo. Alors, pas de manière industrielle et prétexte. Les vidéos dans Politica ont un objectif très précis. Elles peuvent être longues, de 45 minutes, ou plus courtes, de 15 minutes. Alors, je me permets de vous le dire, parce qu'on en est assez fiers, elles ont été tournées par un jeune diplômé du CFJ, qui, je crois, est dans la salle, qui se cache. Et elles ont été tournées pour certaines aussi au CFJ. Donc, on est très heureux d'avoir accueilli ces tournages. Mais au-delà de ça, le principe était justement de ne pas reproduire l'interview basique du chercheur sur l'actualité brûlante. Je vais laisser aussi à nouveau Frédéric expliquer en détail ce que sont ces deux formats, longs et courts, quels sont leurs propos. Peut-être montrer un exemple.
On va commencer, je crois, par le long, me semble-t-il. Alors, on commence par un petit aperçu. Alors, chacune chacun de ces entretiens est accompagné. Hein. Autrement dit, on a sur chacun de ces entretiens une biographie du chercheur, une bibliographie du chercheur, et y compris pour les entretiens longs notamment, mais aussi pour les courts, les textes qui sont cités par le chercheur, on les retrouve aussi sous les entretiens, de manière à ce que celui qui regarde ne soit pas perdu hein, dans la manière de faire. Alors je crois qu'on va d'abord lancer... voilà.
Bonjour.
Alors Stéphane Audan-Rousseau, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez contribué au renouvellement des approches de l'histoire de la Grande Guerre en particulier et du phénomène guerrier en général. Alors, nous allons revenir sur votre parcours de recherche, sur les thématiques que vous avez déployées, sur votre approche spécifique de l'histoire des conflits. Et donc ma première question est double, elle sera simple, peut-être un petit peu abrupte. Pourquoi la guerre ? Et pourquoi la Première Guerre mondiale ?
Alors pourquoi la guerre ?
Vous ne saurez pas.
Suspense. Alors, on a fait ces parcours que vous voyez là, ce sont effectivement des parcours longs, avec des chercheurs renommés, pour certains très connus, qui appartiennent aux UMR partenaires de TEPSIS, mais qui appartiennent aussi à d'autres universités, à des universités étrangères. Notre idée, c'était de dire la recherche, c'est une activité incarnée, c'est-à-dire quelqu'un qui engage toute sa vie dans un parcours de recherche, il a des intérêts, il a des envies, il a toute une trajectoire qui le porte à chercher ces objets, et on a envie que celui qui regarde, non seulement entende ce que ce chercheur a à dire sur la guerre, par exemple, ou sur autre chose, mais qu'il entende pourquoi il s'est intéressé à ce sujet. L'autre particularité, c'est que vous avez vu à chaque fois, il y a un intervieweur ou une intervieweuse, et celui-là ou celle-là, il est choisi, ou elle est choisie, par la personne interviewée. Et généralement, il ou elle est choisi parce qu'il y a un lien de complicité entre les deux. Et donc, ça donne à ces entretiens aussi une tonalité tout à fait particulière, parce qu'on y entend beaucoup de complicité intellectuelle, beaucoup d'amitié. On y entend aussi, très souvent, un passage de génération. Et c'est évidemment ce qui fait un des intérêts hein, aussi de ces parcours.
Format instantané.
Alors le format instantané, c'est un format court hein, qui en gros joue sur deux logiques. Vous allez voir sans doute un extrait à un moment donné sur l'Ukraine, d'une chercheuse qui travaille sur l'Ukraine. C'est pouvoir à un moment donné, en 15 minutes, éclairer un événement extrêmement important qui est en train de se passer et pour lequel nous avons la chance avec notre panel de chercheurs et avec ceux qui travaillent avec ces chercheurs, d'avoir immédiatement la bonne personne qui peut éclairer ce qui est en train de se passer. L'autre manière plus tranquille, je dirais, c'est lorsque l'un de nous vient d'achever une recherche, de lui donner là aussi la parole pour présenter cette recherche. Mais là, c'est l'Ukraine que nous allons voir.
Génération Maïdan traite de ce qu'on appelle communément la crise ukrainienne, à défaut de pouvoir trouver un nom juste pour cette suite d'événements qui comprennent effectivement d'abord cette mobilisation sur la place Maïdan, donc la place de l'indépendance en plein centre de Kiev, qui débute fin novembre 2013 et qui perdure pendant presque 3 mois, avec un certain nombre de revendications avancées par les protestataires qui ont l'Europe effectivement comme point de référence et comme référentiel pour leur action.
C'était un extrait aussi. La suite, si vous voulez avoir la suite, faudra vous connecter. Je dois souligner quand même la sobriété, vous voyez, de ces vidéos qui n'ont pas été enrichies par prétexte. L'idée étant de donner toute la parole aux chercheurs et à celui qui s'exprime. On peut poursuivre, sur les ateliers qui sont une autre particularité du LabEx TEPSIS et qui ont toute leur place dans la plateforme Politica.
Alors les ateliers, c'est précisément ce qu'a dit Vanessa tout à l'heure, c'était montrer la recherche en train de se faire. Alors évidemment, la recherche en train de se faire, on a beaucoup d'images de ce qu'est la recherche en train de se faire quand on parle de sciences dites dures. Sur nos disciplines, c'est toujours beaucoup plus difficile d'ouvrir le laboratoire, de montrer ce qui se passe dans les coulisses. Or c'est pourtant ce qu'on a voulu faire. Et donc, c'est le débouché de travaux en cours et de travaux qui sont, dans la plupart des cas, financés par TEPSIS. Dans ce que vous allez voir ici, vous avez notamment une recherche, ce que vous apercevez là dans les vignettes, vous avez une recherche de jeunes chercheurs sur les crimes de guerre nazis. Vous avez également deux gros projets financés par TEPSIS, l'un sur... La traduction de Mein Kampf, qui, comme vous le savez, est un sujet évidemment important et qui a été polémique et controversé. Et donc, on retrouve sur ce site beaucoup de choses à ce propos. Et puis l'autre, c'est, je dirais, l'actualité, puisque ça porte sur 1917. Et puis enfin, on en a parlé tout à l'heure, dans les ateliers, on trouve également, alors on trouve beaucoup de choses, mais on trouve également des recherches de jeunes chercheurs, c'est-à-dire de nos doctorants, dont le résumé de la thèse et les principaux moments, les principaux traits de leur problématique se retrouvent sur le site. Donc c'est aussi pour eux, bien entendu, un moyen de montrer ce qu'ils sont en train de fabriquer.
Il y a une particularité aussi, c'est l'espace de recherche. Chaque internaute peut très facilement, alors je ne sais pas si on peut accéder à l'espace de recherche, je crois que c'est dans le footer, très facilement retrouver un auteur, retrouver une notice, retrouver une vidéo. Et ce moteur de recherche, alors pour les auteurs dans ce cas, mais plus généralement aussi en haut, est évidemment extrêmement puissant, extrêmement utile, ce qu'on ne pourrait pas faire dans un ouvrage papier par définition, ou alors en passant par le sommaire, mais qui ne sera pas exhaustif. Ça, c'est un énorme travail aussi, de voir sur chaque objet, les référencer par mots-clés, par rubrique, par séquence. Ça, c'est très précieux. Une dernière chose sur la... Après, on va peut-être passer aux questions. Pardon, il y avait une... Bien sûr.
Pardon, juste parce que Roman a cliqué, écrit Jean-Frédéric Chaube, et vous demandez peut-être pourquoi vous avez la notice de Gisèle Sapiro-Champ. En l'occurrence, c'est parce que la base est extrêmement perfectionnée. Elle cherche non seulement les contenus dont l'auteur premier est celui dont vous avez tapé le nom, mais elle cherche également ceux qui sont cités dans les bibliographies ou les notes.
Merci. Effectivement, c'est très, très important de le savoir. Dernière chose donc sur la revue Passé-Futur, qui est aussi évidemment une particularité de TEPSIS. Je vais laisser Sabina Loriga présenter sa revue, puisqu'elle dirige la revue Passé-Futur, et peut-être vous dire que Politica a aussi pour objet d'accueillir d'autres revues, des travaux collectifs, donc ce n'est qu'un début. Et la revue Passé Futur l'exprime parfaitement.
Merci beaucoup, Jolie. que peut-être il faut partir d'une question très simple. Pourquoi une nouvelle revue? C'est une question tout à fait légitime. Lorsqu'on entre dans le portail des sciences humaines et sociales, la curiosité et l'enthousiasme sont souvent suivis ou écrasés même par un sentiment de fatigue et de lassitude. JSTOR met en ligne plus de 1300 revues, soit environ 325 000 numéros et plus de 3 millions d'articles. Trop de revues, on pourrait dire, trop d'articles, trop d'auteurs, trop de notes, trop de bibliographies, donc il y a sans aucun doute un trop-plein. Mais malgré cette superproduction, nous avons décidé de créer une nouvelle revue et la pour titre « Passé, futur » concerne essentiellement la question des différents rapports au passé et au futur. Le titre est au pluriel et on tient beaucoup à cette pluralité, donc pluralité de passé, pluralité de perspectives futures et aussi pluralité des protagonistes dans le sens de ceux qui racontent et écrivent le passé. La décision de créer cette revue est liée à un diagnostic assez simple. Depuis les années 80, une série d'affaires à forte résonance médiatique a mobilisé les opinions publiques sur des questions d'histoire. Les sujets les plus débattus sont fréquemment liés à des événements spécifiques de l'histoire contemporaine, mais ils ont trait aussi à des enjeux qui concernent de manière plus générale les identités politiques, nationales ou religieuses. Et cette multiplication de controverses a fait de la question des usages du passé un thème majeur dans l'espace public. J'aimerais rappeler de manière télégraphique trois pensées, trois réflexions qui nourrissent notre projet, peut-être dans l'éditorial, peut-être on peut. Voilà, merci. Donc, je disais, je cite de manière télégraphique, première considération concerne ce qu'on pourrait appeler la géographie des affaires. Sans doute, de nombreuses controverses se situent à l'échelle nationale. Il suffit de penser à la question de la collaboration à l'époque de Vichy. Cependant, il nous semble essentiel d'aller au-delà de la dimension nationale et d'appréhender les manières dans lesquelles les controverses circulent dans le monde et se transforment. Certaines controverses mettent en cause les relations entre différentes entités nationales, c'est le cas par exemple de Corée, en Japon, Palestine, Israël et de beaucoup d'autres situations. Mais il y a aussi d'autres controverses qui sont exacerbées par des tensions et parfois par des équivoques et qui ne sont pas compréhensibles dans une dimension nationale. C'est le cas, entre autres, des débats qui concernent l'esclavage et la colonisation ou les colonisations. Donc, cette dimension internationale pour nous est un point très important et c'est aussi pour cette raison que la revue est animée par un comité de rédaction international qui réunit des chercheurs et des chercheuses en France, en Argentine, en Uruguay et en Espagne. Et bien sûr, nous comptons, nous espérons dans d'autres collaborations internationales. Deuxième considération touche à l'espace public. Les débats récents sur l'histoire, justement, sont souvent marqués par la nostalgie d'un âge d'or, un prétendu âge d'or, dans lequel le passé aurait été réservé aux seuls historiens. Nous ne partageons pas cette perspective nostalgique et nous souhaitons, avec cette revue, interroger la frontière entre professionnels et amateurs, savants et populaires. La tâche paraît urgente, on l'a déjà dit avant moi, étant donné qu'Internet et les technologies connexes ont bouleversé l'idée de compétences spécialisées. Dernière considération concerne la confrontation avec d'autres formes de connaissances du passé. Dans les dernières années, vous l'avez sans aucun doute vu, de nombreux romanciers, de nombreux artistes se sont intéressés au passé. C'est quelque chose de récent. Il s'agit d'un changement majeur. Et si vous pensez tout au long de la première moitié du XXe siècle, la littérature de Ibsen à George Eliot, de Gide à Henry James, a représenté la fièvre, la conscience historique comme une fièvre, alors qu'aujourd'hui les choses sont différentes. Antonio Muñoz Molina, Saramago, Daniel Mendelssohn, Annie Canel, un certain nombre de romanciers se gardent bien d'affirmer la valeur de l'oubli et certains d'entre eux se proposent même de combler les failles de l'histoire. De la même manière, il y a de plus en plus d'artistes dont la pratique démarre avec la recherche dans les archives et qui proposent une reconstruction du passé. Et donc, il nous semble très important d'échanger justement avec aussi des littéraires, avec des artistes et de réfléchir davantage sur les multiples vecteurs de la mémoire sociale. Or, ces trois considérations que j'ai citées de manière télégraphique sont émergées dans un travail collectif qui a duré plusieurs années avant, je dirais, la réalisation de la revue et n'aurait pas été possible sans une série de filiations, transmissions, collaborations. Et à cet égard, je tiens à rappeler deux précédents importants du point de vue scientifique. Le premier, c'est la réflexion sur les usages publics du passé qui a été inaugurée par François Hartog et Jacques Révoyel à l'École des hautes études. Et d'autre part, les deux colloques organisés par l'École toujours et les fonds Ricoeur autour du livre de Paul Ricoeur, Mémoire, Histoire, Oubli. Je passe peut-être à la présentation donc de la structure de la revue, si nous pouvons aller sur la... Voilà. Donc, chaque numéro contient un dossier thématique, une rubrique intitulée « Un débat », des conversations et des lectures d'ouvrages, de films, de tableaux, des variats. Sans doute, je pense que la chose la plus importante et la plus simple est de regarder le premier numéro qui peut montrer justement la structure. Donc, le dossier est intitulé « Passage non maîtrisé ». Il est consacré aux usages de la notion de trauma. Cette notion, comme vous l'avez sans doute remarqué, est à la une de l'actualité et nourrit le débat politique, de nombreux textes littéraires, des œuvres d'art, des colloques, même des départements universitaires. Et bon, les 5 articles réunis dans le dossier explorent la richesse conceptuelle de cette notion et interroge sa pertinence dans l'interprétation du passé. Je me limiterai à citer 2 articles. Le premier est celui de Ugo Vezzetti, qui est consacré à l'Argentine. Vezzetti s'est toujours intéressé aux effets de la violence d'État, ainsi qu'aux effets du mythe de la violence révolutionnaire dans l'Argentine des années 70. Et même s'il ne propose pas de comparer les deux violences, mais il cherche à comprendre le poids de ces différentes violences dans l'élaboration de la conscience historique de la société argentine. Et c'est dans cette perspective qu'il analyse l'apparition tardive de la notion de trauma dans le débat politique argentin, surtout à travers l'affirmation des grands-mères de la place de Mai. Deuxième exemple, c'est l'exemple de l'article de Eva Weil. Eva Weil est psychanalyste et elle a étudié déjà avant cet article les statuts de témoignages de survivants en Europe dans la période qui va du 45 à 2000. Et dans cet article, elle aborde en particulier les réceptions publiques contrastées dans la société de la Shoah, donc dans la presse, dans la littérature et aussi dans la cure privée. Et à partir de cet examen, elle interroge notamment la notion de latence collective, en mettant en lumière, je pense, un point très important, c'est-à-dire la différence entre le silence et la latence. Donc ça, c'est pour, je dirais, le dossier, donc le dossier consacré autrement, mais comme je l'ai déjà dit, il y a aussi d'autres articles. Il y a tout d'abord, nous avons deux conversations, non, d'accord, nous avons trois articles qui font partie d'une rubrique en débat, et ces trois articles discutent sur la décision d'ouvrir un musée du fascisme en Italie, à Predappio, donc la ville natale de Mussolini. Cette décision n'a pas convaincu tout le monde. Elle a suscité des débats nourris et tendus en Italie d'abord, mais bientôt au-delà de l'Italie, et qui concernent deux thèmes importants. Premier thème général concerne la possibilité d'une mémoire partagée du fascisme. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit avoir une mémoire partagée? Et en deuxième lieu, de manière plus spécifique, l'opportunité d'ouvrir le musée dans la ville natale de Mussolini, c'est-à-dire dans une ville où, dans les dernières décennies, cette ville est devenue un lieu de pèlerinage politique des fascistes. Environ 50 000 personnes s'y rendent pour rendre hommage aux fondateurs du fascisme. À côté donc de cet article, il y a encore deux conversations, un avec Richard Reichmann, où on revient sur la question de la souffrance psychique déclenchée par la terreur politique. On commence par le Cambodge et on finit avec les attaques terroristes en France. Et la seconde est une conversation entre l'historienne Barbara Taylor et le sociologue Stefano Bori à propos d'un livre très intéressant, The Last Asylum. Il s'agit d'un ouvrage autobiographique dans lequel Taylor retrace l'histoire de son hospitalisation dans le dernier asile à Londres, et le récit de son propre parcours l'a conduit à s'interroger sur les dérives du langage orwellien de la psychiatrie actuelle, fondée sur les termes de recovery, wellness, choice, risk. Et grâce à ça, elle ouvre une question qui va au-delà de la psychiatrie. Elle pose la question, est-ce que notre société n'est pas en train d'exagérer les possibilités de développer l'autonomie individuelle? Ensuite, il y a une lecture critique sur la question de l'héritage de l'esclavage et de Conradu. Voilà, je pense que c'est tout. Ou peut-être presque tout.
Peut-être que, Sabina, peut-être qu'il y aura des questions. Est-ce que tu voulais peut-être préciser quelque chose? Mais je me dis peut-être que chacun pourra ensuite explorer, hein, évidemment, la profondeur du site. Si tu voulais préciser quelque chose pour terminer.
Je veux seulement ajouter un mot, c'est-à-dire je tiens à remercier les collègues de TEPSIS, à commencer par Richard Reichmann, pour leur confiance et collaboration. Et je voudrais aussi rappeler la passion et la patience des post-docs de TEPSIS. Donc un grand merci à Thomas Hirsch, Vanessa Jérôme, Aurélie Biard et Romain Krakowski.
Effectivement, je pense que le travail ce que vous ne voyez pas là, c'est le travail qu'a demandé la mise en page, notice par notice, note par note de chaque papier, de chaque revue. Merci beaucoup, Sabina. Je vais laisser... D'abord, est-ce que parmi vous, il y a des questions? Vous avez ici à peu près tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, je vais laisser... Oui, une question.
Oui, bonjour, je suis Frédéric Lemaître du journal Le Monde. J'avais une question sur le réseau international que vous avez présenté au début. Je voulais savoir à quoi il correspondait et est-ce que, par exemple, Politica permet de s'informer sur les grandes questions débattues en sciences sociales, je ne sais pas, en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
Aujourd'hui, c'est en train de sortir, mais c'est effectivement un des enjeux essentiels pour nous. Politica est une plateforme internationale et c'est pour ça qu'elle est d'emblée en bilingue, français-anglais, et nous espérons très prochainement trilingue, français-anglais-espagnol.
Est-ce qu'il y a un lien institutionnel ou non avec les annales ?
Un lien institutionnel ou non avec les annales ? Quoi ? Voilà, Pierre Cyril a donné la réponse. Indirect, oui, nous sommes ouverts à toute forme de lien avec les modes d'édition actuels, à réfléchir dans ce qui serait le plus opportun. Mais comme vous avez pu le voir, la structuration même des contenus n'est pas exactement la même que celle qui est dans une publication papier. Et qui n'est pas non plus exactement la même que celle qui pourrait être construite dans un e-book. Donc c'est une chose qui nous semble mériter un développement et un enrichissement avec nombreux collègues.
Pardon, merci. Oui, bonjour, Cléa Chakraverty de Conversation. Je voulais également vous féliciter. Quelle serait la fréquence des articles, de la parution, des notices, des entretiens ? Et comment va se faire le choix ? Est-ce que vous allez avoir des réunions éditoriales ? Voilà, est-ce que ce sera thématique ? Est-ce que ce sera au tout venant ? Vous pourrez me dire un petit peu plus. Merci.
D'abord, je tiens à remercier votre prise de parole parce qu'il est important que l'on souligne le partenariat que nous avons avec The Conversation et qui est pour nous quelque chose de tout à fait essentiel aussi, à la fois dans le lien ténu que nous pouvons avoir et la diffusion de nos contenus au-delà du périmètre des chercheurs. Maintenant, sur la façon dont nous allons opérer, je crois que, bien sûr, il y aura des articles qui vont être commandés au fur et à mesure d'un certain nombre d'événements ou de situations, mais il y aura aussi des propositions qui viendront de la communauté des chercheurs, parce que justement, tout l'intérêt, c'est à la fois d'être dans l'actualité, mais de ne pas assombrir les choses que l'on ne voit pas. Et il y a des choses tout à fait essentielles qui ne sont pas toujours dans l'actualité et qui pourtant le deviendront. Donc on n'aura pas une dimension, je dirais, univoque par rapport à cette approche-là. Puisqu'il n'y a plus de questions, je voudrais par contre faire un certain nombre de remerciements. Ils ont déjà été commencer, mais je voudrais les continuer. Je voudrais remercier le graphiste Vincent Bidot qui a fait l'identité visuelle de Politica que vous avez pu voir, là, le PET logo rouge que nous trouvons très bien. L'équipe d'Open Web Solutions et surtout Sylvain Moreau, le directeur, et Clément Pinot et ses développeurs qui nous ont développé ce site. Le journaliste formé au CFJ qui a déjà été cité, Julien de Saint-Phalle, qui a tourné et monté les vidéos de tous les entretiens, Nassera Benfeda qui a contribué à la réalisation du cahier des charges technique du site, l'équipe des post-doctorants que vous avez là, Aurélie Biard, Francisco Calegaro, Grégory Dufault, Thomas Hirsch, Vanessa Jérôme et Romain Krakowski, et permettez-moi de dire qu'ils ont accompli un travail absolument formidable pour tout au long de cette période. Elisabeth Koslowski, qui est la coordinatrice du LabEx, Claire Pinto, qui est notre chargée de communication, que vous voyez courir un peu partout là en ce moment. Et bien sûr, avant tout, nous voulons aussi remercier tous les premiers contributeurs, parce que ceux-là nous ont fait confiance en allant produire des textes originaux, qui un pari risqué, on en a eu beaucoup, je crois que c'est l'ouverture pour qu'il y en ait d'autres, et je tiens vraiment à les remercier très sincèrement de nous avoir fait confiance, ainsi que tous les traducteurs, puisque vous, comme vous avez pu le voir, tout est traduit en anglais sur le site. Voilà, maintenant le site est ouvert, on peut, dans quelques minutes, quelques heures, enfin, on peut l'avoir, et on peut même aller prendre du champagne et quelques petits fours dans la salle qui est au-dessus, je crois que c'est la salle 8, et je vous remercie d'avoir tenu dans cette chaleur. Et merci infiniment.